Il est 14h30 à Paris, midi et demi en temps universel. Et Afrique Midi, c'est avec vous Nicolas Sur, bonjour.
Bonjour Alban Le Prince, bonjour à toutes et à tous. La Chine prête à supprimer les droits de douane de 53 pays africains. Une annonce qui fait sensation au moment où les États-Unis, eux, veulent les relever. En République démocratique du Congo, l'appel de la société civile du Sud Kivu pour le retour de la paix. Les représentants des organisations de la société civile apportent leur soutien à la démarche des évêques de la Synco, la conférence épiscopale, et demandent un dialogue inclusif de toute urgence. Intelligence artificielle et cybersécurité au menu du salon Vivatech de Paris. Quel est l'état de la menace en Afrique? Franck, qui est commissaire général du Cyber Africa Forum, qui est à Africa Tech, qui est à Vivatech, est notre invité. Un geste historique de la Chine. Pékin se dit prêt à discuter d'une suppression des droits de douane pour 53 pays africains. Jusque-là, seulement 33 pays bénéficiaient de ces exemptions totales. Alexis Bédu, une annonce forte, même si le gouvernement chinois n'a pas encore précisé quand la mesure entrerait en vigueur.
Oui, l'objectif affiché par Pékin, c'est d'importer plus de produits en provenance d'Afrique. Ça pourrait compter pour les grandes économies industrielles du continent, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc. Ceux qui font de la transformation sur place pourraient potentiellement exporter plus. Alors c'est un coût géostratégique important. Au moment où les États-Unis annoncent qu'ils vont fortement augmenter les droits de douane de certains pays africains, la Chine envisage de les supprimer. En 20 ans, Pékin est devenu le premier partenaire commercial de l'Afrique, le premier investisseur dans les pays africains et leur premier créancier.
Est-ce que ça peut vraiment changer la donne pour les pays africains?
Alors, on ne sait pas quels seront les secteurs concernés. Les pays africains exportent vers la Chine principalement des matières premières, minerais et pétrole qui ont une faible valeur ajoutée. Est-ce que vraiment la Chine autorisera des exemptions de droits de douane pour les voitures sud-africaines? Et si c'est le cas, est-ce que la voiture sud-africaine sera assez compétitive pour qu'il y ait une demande en Chine? Tout cela est très hypothétique. Depuis 2005, 27 pays d'Afrique les moins avancés bénéficient d'exemptions sur la quasi-totalité de leur exportation et l'impact reste marginal. Ces suppressions de droits de douane pourraient aussi inciter les pays africains à rester dans le système actuel, c'est-à-dire à rester dans une économie d'extraction plutôt que d'aller vers la transformation.
En République démocratique du Congo, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, rencontre ce matin à Goma le représentant du mouvement armé AFC M23, Corneille Nanga. Une première plus de 5 mois après la prise de la ville par le groupe rebelle soutenu par Kigali. Dans un post sur X, la MONUSCO indique que la réunion a pour but d'échanger sur la mise en œuvre du mandat de la mission, notamment la protection des civils. À Bukavu, l'appel de la société civile du Sud Kivu pour le retour de la paix. Les représentants des organisations de la société civile ont apporté hier leur soutien à la démarche des évêques de la Synco, la conférence épiscopale du Congo. Ils demandent un dialogue inclusif de toute urgence pour soulager les populations de l'Est, Magali Lagrange.
Le président du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu prend la parole. Au nom de toutes ses composantes, Mick Mutiki lance un appel général au dialogue.
Nous lançons un appel vibrant à toutes les parties impliquées dans le conflit et toutes les forces sociales de se mettre autour d'une table à travers un dialogue inclusif en respectant un cessez-le-feu immédiat. Un dialogue dont la nécessité n'est pas le partage du gâteau ou de pouvoir, mais la refondation de la nation congolaise à travers des réformes pertinentes.
Les acteurs de la société civile recommandent la mise en place d'un couloir humanitaire, la réouverture de l'aéroport de Goma et également celle des banques fermées en raison du conflit, situation qui complique le quotidien des populations déjà éprouvées de l'Est de la RDC. Pour la présidente de la nouvelle société civile congolaise aussi, le dialogue est indispensable, Mireille Mirembetassi.
Même si la guerre continue, tôt ou tard, on va finir par dialoguer. Alors, pourquoi attendre à ce que ça soit plus grave? Depuis février, ce n'était que la voix des armes qui était en train de gagner le terrain. Nous sommes fatigués. Il faut que ça cesse.
La société civile du Sud Kivu appelle également à la cohésion sociale et à la mise en place d'une justice transitionnelle pour établir les responsabilités.
Le Premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Koliné-Makosso, en visite d'amitié et de travail, 2-3 jours au Sénégal. Il rencontrait hier son homologue Ousmane Sonko. Au menu des entretiens, la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'économie, de l'énergie et de l'enseignement supérieur. Le chef du gouvernement congolais s'est aussi exprimé sur la fin d'une mesure controversée, la mise à disposition de terres congolaises à des entreprises et des entrepreneurs rwandais. Elle avait été décidée en 2022 et annoncée la semaine dernière comme étant caduque par le ministre congolais de la communication. Ce sont des décisions administratives, précise Anatole Koliné-Makosso, qui n'ont rien à voir, dit-il, avec la qualité des relations diplomatiques entre Brazza et Kigali.
La coopération avec le Rwanda est parfaite. Le problème qu'il y a avec le Rwanda, c'est la caducité d'un certain nombre d'actes administratifs. Le Congo a mis à la disposition des entreprises rwandaises des terres pour l'activité agricole. Les populations, du fait du conflit qu'il y a entre le Rwanda et la RDC, ont cru voir une collaboration avec le Rwanda. C'est juste une autorisation express d'occuper qui a été donnée à la société Cristal Venture. Et il y a des clauses suspensives. Si au bout d'un certain temps, aucune activité n'a été réalisée, l'autorisation devient caduque. Et lorsque nous avons constaté que les autorisations qui ont été données n'ont pas fait l'objet d'exploitation, elles ont été annulées. Ce qui n'a rien à voir avec la qualité des relations diplomatiques que nous entretenons avec le Rwanda, des relations qui sont toujours intactes, qui ne souffrent d'aucune anomalie.
Propos recueillis à Dakar par Elisa Westerhoff. Au Mali, un convoi de l'armée et de l'Africa Corps, les supplétifs russes de l'armée malienne, a été visé par une attaque des rebelles indépendantistes du FLA tôt ce matin. Circulant entre Anéfis et Aguéloc dans la région de Kidal, le convoi est tombé dans une embuscade. Selon les sources jointes par RFI, des membres du FLA et des civils de Kidal proches des autorités maliennes. Plusieurs véhicules militaires auraient été détruits ou endommagés. Ce même convoi avait déjà été ciblé hier par des mines artisanales. Par ailleurs, les FAMA déplorent dans un communiqué publié hier soir une autre attaque dans la région de San, dans le centre du pays. Le centre d'instruction militaire de Tibi a été visé par des drones kamikazes, selon l'armée. Pas de revendication à ce stade. La zone d'action est celle du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Le Mali, où un projet de loi adopté mercredi en Conseil des ministres prévoit d'accorder au général Assimi Goïta un mandat de 5 ans renouvelable sans élection. Ce sont des raisons sécuritaires qui sont invoquées. Mais l'opposition crie au rétablissement pur et simple de la dictature. Indignation notamment de l'ancien ministre de la Justice, Mamadou Ismaïla Konaté, désormais installé hors du Mali.
Cette transition devrait être une parenthèse de rétablissement institutionnel. Elle devient un projet de gouvernement militaire à long terme, sans base populaire, sans contrôle parlementaire et sans aucun chronogramme électoral. Nous sommes installés dans une dictature militaire, plus personne n'en a le doute.
À vos yeux, ce maintien au pouvoir n'est pas légitime? Vous parlez de confiscation?
Il n'est ni légitime ni légal parce qu'il ne résulte d'aucun processus électoral, d'aucun processus référendaire. On s'est contenté de réunir un certain nombre de personnes dans une salle pour les appeler des forces vives. Ce n'est ni plus ni moins qu'un autre coup d'État. Il est institutionnel celui-ci et le but est d'installer de façon durable un pouvoir militaire sans aucune base légale. Je dis non parce que depuis 1991, l'option fondamentale du Mali et des Maliens est démocratique. Ce combat de la démocratie doit prendre le pas sur tout. Bien évidemment, le peuple du Mali est souverain. Et lorsque sa souveraineté a été violée dans ces conditions-là, il revient au peuple d'en prendre conscience.
Propos recueillis par David Bachet. Mission définitivement terminée pour l'ambassadeur du Bénin au Niger. Gildas Agonkan, nommé en juin 2023 dans un souci de normalisation des relations entre les deux pays, avait été rappelé il y a 4 mois après des propos jugés inappropriés et contraires à la position du Bénin. Il ne reviendra plus à Niamey. Un nouvel ambassadeur devrait être nommé, Jean-Luc Aplogan.
C'est le ministre béninois des Affaires étrangères qui va plus loin et annonce sur les médias locaux, 4 mois après, que le Bénin allait procéder dans les prochains jours, probablement à la nomination de nouvel ambassadeur au Niger. En clair, Gildas Agonkan a été rappelé et relevé de ses fonctions, sa faute des propos controversés tenus en février dernier à Gaïa lors d'une cérémonie. Devant des officiels et élus locaux nigériens, il a déclaré ceci.
Je voudrais, au nom de tous les Béninois, les autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien.
Il est applaudi, les propos flattent les oreilles nigériennes. Colère et incompréhension à Cotonou, ses propos contredisent la position officielle, surtout que pour le Bénin, il n'y a ni offense ni complot contre le Niger. Selon un proche du président béninois, personne n'avait donné cette directive-là à l'ambassadeur. Selon nos informations, le Bénin n'a pas encore introduit une autre candidature. Reste à savoir comment elle sera accueillie et traitée par Niamey, qui garde toujours ses frontières fermées et persiste dans les accusations de déstabilisation. L'ambassadeur du Niger à Cotonou, lui, est toujours en poste. Il n'a même pas été convoqué par le ministre des Affaires étrangères du Bénin après les propos accusateurs du général Tiani. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Au Nigeria, le mouvement Take It Back a finalement renoncé hier à manifester à l'occasion de la journée de la démocratie qui commémore le retour des civils au pouvoir. À Lagos et à Abuja notamment, un important déploiement des forces de sécurité a découragé les rassemblements. Le mouvement Take It Back dénonce depuis plusieurs mois les problèmes économiques et de sécurité. Sur la sellette, le président Tinubu a tenté hier, lui, de reprendre la main dans un long discours à l'Assemblée nationale. À Abuja, Moïse Gomis.
Des agences sécuritaires nigérianes ont dissuadé sur tout le territoire toute manifestation considérée comme hostile par la majorité présidentielle. Leur présence massive, notamment devant les grilles du complexe de l'Assemblée nationale à Abuja, avait un sens, démontrer l'intention des autorités fédérales de ne pas laisser les voix discordantes du mouvement Take It Back prendre le dessus, en particulier en cette journée de célébration de la démocratie. Car devant un parterre de parlementaires des deux chambres, de gouverneurs, de ministres et même du chef de son parti, l'APC, le président Bola Ahmed Tinubu a longuement évoqué son attachement viscéral à la démocratie. Puis, il s'est félicité de ses résultats, très bons de son point de vue, après 2 ans de pouvoir.
Le produit intérieur brut a augmenté de 3,4% en 2024. L'inflation diminue progressivement, stabilisant le prix des denrées alimentaires de base, comme le riz et les haricots. Le taux de change du Naira s'est stabilisé.
Aucun mot en revanche du président Tinubu sur les doléances et revendications sociales exprimées par le mouvement Take It Back. Et pour clore son intervention à l'Assemblée nationale, le chef d'État nigérian a égrené les noms des personnes élevées aux différents titres nationaux de l'ordre du Niger. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Il est 14h43 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, les sports du football, c'est le derby de Conakry cet après-midi dans le championnat de Guinée. Et puis au Cameroun, polémique sur l'état de la chaussée à Douala, depuis qu'une épreuve du championnat cycliste qui devait se dérouler dans la capitale économique a dû être annulée. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce vendredi en Afrique du Sud, le président Ramaphosa en visite ce matin auprès des sinistrés de la province du Cap-Oriental, dévastée lundi par des inondations sans précédent. Le dernier bilan fait état d'au moins 78 morts. Des milliers de maisons, de routes, d'écoles et de dispensaires ont été ensevelis sous la boue lundi dans cette province dont était originaire Nelson Mandela. À Madagascar, député et gouvernement face à face depuis hier à l'Assemblée nationale. C'est un rendez-vous prévu par la Constitution. C'est en fait l'une des rares occasions pour les élus indépendants et ceux de l'opposition d'interpeller l'exécutif, Pauline Le Troquier.
Le retour en force des délestages, les coupures d'eau, l'insécurité. Face aux membres du gouvernement, les élus pointent les mêmes mots, quelle que soit leur couleur politique et le ton choisi pour le dire. Gaskar Fensou, député indépendant à Antananarive, fait partie des voix qui interpellent le plus frontalement le Premier ministre Christian Tsai.
Cela fait 7 ans que vous dirigez le gouvernement et aujourd'hui 80% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. La situation ne s'améliore pas. Monsieur le Premier ministre, cher ministre, seriez-vous prêt à démissionner si vous sentiez que vous aviez échoué ?
Tout au long de la session, les préoccupations économiques sont restées centrales. Le coût de la vie augmente, une crise de l'emploi en zone urbaine couve depuis l'annonce d'éventuels droits de douane sur les produits exportés vers les États-Unis. Mais le budget de l'État, voté en novembre dernier pour l'année en cours, ne sera pas rectifié. L'élu indépendante Sophie Ratirac s'en agace.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une loi de finances adaptée par rapport à la conjoncture. Avec 8% d'inflation, qu'on en parle en personne responsable parce qu'on est tous censés être soucieux du bien-être et de l'avenir de notre pays.
Le face-à-face va se poursuivre ce vendredi, laissant une occasion aux élus d'interpeller le régime sur les îles Éparses. À 2 semaines de la réunion de la commission mixte dédiée à avancer sur ce différend avec la France. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
En Guinée, c'est un choc au sommet qui s'annonce cet après-midi dans le championnat de football. Il opposera le Afia FC, deuxième au classement, à Oroya, leader avec 8 points d'avance. À 5 journées de la fin du championnat, ce grand derby de Conakry pourrait constituer un tournant décisif pour le Oroya. Voilà 2 saisons qu'il est à la peine, après avoir dominé la scène guinéenne pendant 10 ans, Tiernoia Diallo.
C'est sans doute le match le plus important de la saison pour le Oroya de Conakry. Et les Rouges et Blancs n'ont jamais été aussi proches du titre depuis 2 saisons. Mais attention, en face, il y a le Afia, vice-champion de Guinée en titre, et plus sérieux, concurrent. Nous, Ndiane, ancien coach du stade malien de Bamako, aujourd'hui sur le banc du Oroya.
On est tous conscients de l'enjeu et c'est le message que nous avons transmis aujourd'hui. C'est une obligation pour nous quand même de faire un bon match. Cela veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas perdre, quoi. Donc c'est un match qui est important et ça nous permettra quand même de rester sur cette dynamique-là. Nous espérons que les choses vont mieux se passer.
D'Aldur depuis 2 ans, le club de la proche banlieue de Conakry a dû se réinventer. Entre difficultés financières et interdiction de recrutement infligée par la FIFA, il a fallu trouver l'équilibre pour un retour en force aux affaires. Soufiane Soare, président du club.
Entre les académiciens et l'équipe première, ça s'est fait de manière stratégique, ça s'est fait de manière intelligente parce qu'on travaille sur ce projet il y a cela maintenant un peu plus de 10 ans. Les fruits de cette académie commencent au jour d'aujourd'hui à émerger au niveau de l'équipe première. Ils sont en train de faire de très belles choses au niveau de l'équipe première.
Le savant mélange entre quelques anciens qui sont restés fidèles et les jeunes issus du centre de formation a permis au Oroya de réaliser jusqu'à présent une belle saison et une victoire ce vendredi lui rapprocherait davantage du titre. Tiernoia Diallo, Conakry, RFI.
Au Cameroun, c'est un fléau qui empoisonne la vie des automobilistes. L'état du réseau routier, il est à nouveau à la une depuis que la 7e étape du Tour cycliste du pays a tourné court mercredi. L'épreuve devait se dérouler en circuit fermé dans les rues de Douala, la capitale économique. Mais la chaussée était tellement dégradée que la Fédération camerounaise de cyclisme a annulé l'épreuve. À Yaoundé, le reportage de Richard Onanena.
Bon, je pense que l'état des routes au Cameroun est suffisamment désastreux. Et le DIE, c'est comme enfoncer une porte ouverte parce qu'on sait que c'est vieux comme le monde.
Christian Chapmi, coordinateur de la rédaction d'un quotidien de la capitale, n'est pas surpris par l'annulation cette semaine d'une étape du Tour cycliste du Cameroun à cause de l'état des routes dans la capitale économique.
Pour une capitale économique comme Douala, voir qu'on a annulé le tour et qu'on se contente de faire des allers et retours, des allers et venues sur un petit tronçon pour valider l'étape par l'Union Cycliste Internationale, c'est déplorable et ça montre à quel point nous avons touché le fond.
Les images de l'étape du Tour annulée ont été relayées par de nombreux médias. L'état de délabrement du réseau routier camerounais est régulièrement pointé du doigt par la population. Trajet rallongé, véhicules abîmés. Pour ces 2 habitants de Yaoundé, la situation est de la responsabilité du gouvernement.
Il y a beaucoup de négligence à ce niveau-là sur la route au Cameroun. Tu achètes une voiture, tu as 3 semaines, tu vas au garage, si ta voiture est basse. On se plaint tous les jours, mais rien ne change. Les routes sont impraticables.
C'est assez déplorable de voir l'état de certaines routes, même les grands axes routiers du centre-ville. Je pense que l'État devrait prendre ses responsabilités en intervenant là.
Plusieurs projets de réhabilitation de la voirie sont annoncés à Douala. À Yaoundé, la mairie de la ville vient de lancer le projet Yaoundé Cœur de Ville, une initiative qui vise à réhabiliter plusieurs axes routiers de la capitale camerounaise. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Il est 13h48 à Yaoundé, Alban Le Prince, les grands titres de ce vendredi 13 juin.
Réaction en cascade et dans le monde entier après ces frappes israéliennes massives sur les installations nucléaires iraniennes qui ont aussi causé la mort de hauts responsables. Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense en fin de matinée. Il réaffirme le droit d'Israël à se défendre. Le président français doit prendre la parole aujourd'hui. Avant ça, il s'est entretenu à la mi-journée avec les dirigeants saoudiens, jordaniens, qatariens, allemands, britanniques et américains. L'Iran, de son côté, parle d'une déclaration de guerre et promet une vengeance après avoir déjà lancé 100 de drones sur l'État hébreu. Plusieurs ambassades d'Israël ont quant à elles annoncé leur fermeture au public. C'est le cas en France, aux États-Unis, en Russie ou encore au Nigeria et au Ghana. Le Conseil de sécurité des Nations Unies annonce une réunion en urgence aujourd'hui. Et puis 24 heures après le crash d'un avion d'Air India qui a fait au moins 265 morts, le patron de Boeing annule sa venue au salon aéronautique du Bourget. C'est en France et c'est prévu la semaine prochaine. We'll be right back.
notre salon international, l'un des plus grands sur les sujets de l'innovation tech et le cyber, le VivaTech. Il s'achève demain à Paris. Un VivaTech très axé cette année sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Franck Kier, commissaire général du Cyber Africa Forum et expert en cybersécurité, est sur place et il est l'invité d'Eva Massy.
Bonjour Franck Kier.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Vous êtes présent au VivaTech cette année, un salon majeur sur l'innovation tech et la cybersécurité. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de cyberattaques. Elles touchent les administrations, les États, les entreprises. Est-ce que tout le monde est concerné, vous, moi, les populations ?
C'est déjà un phénomène qui concerne tout le monde. L'erreur qu'on a tendance à faire, malheureusement, c'est de se dire qu'il y a une différence entre les entreprises et les particuliers. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont ces mêmes particuliers qui travaillent dans les entreprises. Donc on est tous touchés, tous concernés. Et même si la prise de conscience au niveau public, privé et même particulier semble de plus en plus importante, malheureusement, les cyberattaques augmentent, leurs coûts et leur impact sur les économies africaines aussi. Et donc, il ne faut pas baisser la garde et redoubler d'efforts, à mon avis.
10 ans après le protocole de Malabo, un texte clé pour la cyberdéfense en Afrique, quel bilan faites-vous de son impact sur la cybersécurité des États africains ? Seulement une 15aine de pays sur le continent l'ont ratifié. Comment expliquer les raisons de cette faible adoption ?
Je pense que le nombre de pays ayant ratifié la convention permet de faire un état des lieux du bilan qui, à mon avis, quand même reste relativement mitigé. Il y a une dizaine d'années, les problématiques numériques et cybersécurité n'étaient peut-être pas encore au cœur des enjeux des dirigeants africains. Pour une fois, on ne va pas reprocher à l'Union africaine d'avoir eu l'initiative et de s'être positionnée sur ce sujet-là. Et donc, à mon avis, l'Union africaine a une opportunité aujourd'hui de pouvoir saisir l'occasion de relancer cette convention, de la mettre à jour, de pouvoir trouver le moyen d'embarquer le plus d'acteurs. Et aujourd'hui, une initiative comme Smart Africa, justement, qui joue ce rôle central au niveau panafricain sur les questions de numérique, saisit déjà cette opportunité-là avec notamment la mise en place d'un conseil africain de l'IA qui a pour ambition de porter ces problématiques et de faire avancer les actions et les réflexions dans ce domaine.
Justement, vous parlez souvent de coopération régionale et d'une vision panafricaniste dans la lutte contre la cybercriminalité. Mais tous les pays ne sont pas au même stade de leur transformation numérique. Où en est cette coopération entre pays africains ?
Cette coopération aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'elle n'est pas encore aussi développée qu'elle devrait ou qu'elle pourrait être. Je pense plus ou moins pour les mêmes raisons évoquées quant à l'adoption de la Convention de Malabo. Néanmoins, on remarque que dans les blocs sous-régionaux, il y a des initiatives justement qui permettent aux pays de collaborer et de renforcer leur cybersécurité.
Quels sont les pays africains qui se distinguent par des avancées en cybersécurité ? On parle souvent du Rwanda ou de la Côte d'Ivoire.
Effectivement, ce sont des pays qui, pour la Côte d'Ivoire par exemple, parce qu'elle a été assez durement touchée par le phénomène de la cybercriminalité, a été même un peu obligée de prendre les devants pour que sa crédibilité au niveau international, notamment dans le secteur financier, ne soit pas trop entamée. Le Rwanda est un pays aussi qui est à la pointe sur le sujet. Les autres pays, on va dire les plus développés économiquement du continent, comme l'île Maurice, comme l'Égypte, ou comme l'Afrique du Sud et le Maroc aussi, sont des pays très avancés. Et puis on a des pays qui, très tôt, depuis une dizaine d'années, ont saisi aussi et ont compris l'opportunité de se positionner et d'être des leaders sur le domaine numérique et de la cybersécurité, comme le Bénin, qui est la raison justement pour laquelle la prochaine édition du Cyber Africa Forum aura lieu dans ce pays dans une dizaine de jours.
À Cotonou.
Exactement.
Un autre sujet, celui de la régulation de l'intelligence artificielle. Plusieurs chercheurs soutiennent sa nécessité. Selon vous, est-ce que les États doivent réguler l'IA et comment mettre en pratique cette régulation ?
Je pense que la question de la régulation de l'IA reste forcément un sujet très sensible parce qu'il y a toujours cette composante d'éthique. Jusqu'où est-ce qu'on laisse ou jusqu'où est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle ? Et donc, une initiative comme le Cyber Africa Forum aussi permet aux décideurs publics, nous attendons une dizaine de délégations ministérielles panafricaines, de pouvoir se réunir et de faire avancer la réflexion sur le sujet. Et j'ai bon espoir, justement, que pour les autres révolutions industrielles que nous avons peut-être manquées, celle actuelle permettra de pouvoir avoir une réflexion sur une IA, entre guillemets, africaine, sur une cybersécurité qu'on peut penser aussi qui s'adapte aux spécificités africaines et les différentes initiatives qu'on voit se dessiner et éclore depuis quelques années laissent penser que nous allons potentiellement dans la bonne direction, même si, et j'attire toujours l'attention là-dessus, il ne faut pas baisser la garde et continuer d'être très proactif sur ces sujets-là.
Vous évoquez une évolution des cybercriminels passant de brouteurs isolés à des réseaux sophistiqués. Qui sont aujourd'hui les principaux acteurs de la cybercriminalité en Afrique ?
Les principaux acteurs de la cybercriminalité en Afrique aujourd'hui sont des mafias, des groupes criminels qui agissaient déjà dans la criminalité physique, si je peux dire ça de cette façon-là, mais qui aujourd'hui justement ont transposé une partie de leur activité également dans le volet numérique et en plus avec un aspect transfrontalier, ce qui rend encore plus difficile la possibilité de les traquer, de les arrêter. Et donc s'il n'y a pas cette collaboration-là, en fait, il y a un risque beaucoup plus important et une augmentation encore plus importante des cybercrimes à craindre au cours des prochaines années.
Franck, qui est commissaire général du Cyber Africa Forum au micro d'Eva Massy, entretien à retrouver sur le www.rfi.fr et sur nos applications. Alors que le sommet mondial sur l'océan s'achève à Nice, on part aujourd'hui en Sierra Leone. C'est l'un des pays de la planète les plus exposés à l'érosion côtière. Près de 2 millions de personnes installées le long des côtes sont menacées par la montée des eaux. Et la situation est particulièrement préoccupante sur les îles qui bordent la côte sierra-léonaise. Ainsi, sur l'île Plantain Island, au sud de Freetown, la capitale, des dizaines de bâtiments ont déjà été avalés par la mer. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Lisa Fabian.
La terre sablonneuse semble avoir fondu à force d'être léchée par les vagues. Le rivage s'enfonce maintenant à pic dans l'océan. L'érosion de la côte a déjà emporté une partie de l'école de Plantain Island. L'extrémité du bâtiment est détruite et frôle le vide. Le professeur Ibrahim Tarawali se remémore son arrivée sur place il y a presque 20 ans.
Beaucoup d'entre nous sont venus ici depuis le nord pendant la guerre civile. Et maintenant, cette île est en train de disparaître à cause de l'érosion et des intempéries. Oui, j'ai peur. Regardez cette école. Une salle de classe et le bureau du principal sont tombés dans la mer. Graduellement, l'île rétrécit de plus en plus. Et quand elle disparaîtra, il faudra bien partir.
La population était initialement de plus de 5000 personnes, il n'en resterait plus que quelques centaines. En contrebas, les vagues turquoises viennent se briser à quelques mètres seulement d'une petite mosquée bleue. Autrefois, ce bâtiment se trouvait au centre du village. L'imam Djibril Aladji Camara continue d'y diriger la prière.
Une partie des murs s'est déjà effondrée. Alors les gens viennent encore prier, mais ils ont peur. Alors quand la marée est haute, les fidèles prient vite, vite, le plus vite possible avant de repartir.
Une voisine s'approche. Kadiatou Diallo porte un long voile noir qui recouvre son corps sec. La vieille femme originaire de Côte d'Ivoire pointe la surface lisse de la mer.
Avant, on pouvait marcher jusqu'à la petite île, tout là-bas. Il y avait une route, des maisons et une autre mosquée. Mais tout a disparu. Et juste là, c'était ma maison. Nous vivions de manière très confortable. En fait, on ne pouvait même pas entendre les vagues quand on dormait. Il y a des années, d'ici, on ne pouvait même pas deviner qu'on vivait sur une île. On ne voyait même pas la mer.
L'Agence pour la protection de l'environnement en Sierra Leone et l'Organisation internationale pour les migrations ont mené récemment une étude pour voir comment améliorer la vie des habitants sur place. Henry David Bayo est consultant pour l'agence gouvernementale.
Pour ceux qui veulent rester sur l'île, il faut prendre des mesures de protection. Par exemple, on réfléchit à la manière dont on pourrait restaurer les mangroves qui entourent l'île, parce que cette végétation permet de ralentir l'érosion et de protéger la côte.
Une bonne partie des habitants de l'île Plantain n'ont tout simplement nulle part d'autre où aller, ni même les moyens de quitter leur habitat en plein déclin. Lisa Fabian, de retour de Freetown, RFI.
Et c'est sur l'île Plantain au large de Freetown que se referme cette demi-heure africaine, réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Zigrid Azerwal. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À lundi, Nicolas Sûr. Dans deux minutes, selon votre zone d'écoute, le rendez-vous de Haïti et des Amériques. 30 minutes d'infos en full day ou en portugais. A tout de suite sur RFI.
Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits.
Légendes urbaines.
Juliette Fievet.
Hello la famille, je vous donne rendez-vous avec les plus grandes légendes des cultures urbaines mondiales qui viendront à la maison vous raconter leur parcours sous un autre angle, juste pour vous, dans
Légendes urbaines avec Juliette Fievet.
Parce que la rue a une voix.
Tous les samedis à 11h30 TU sur RFI.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.